À quoi correspond le royaume de Dieu numéro 6 le levain? L'histoire lire Matthieu 13h33, Luc 13h20-21. À l'époque de Jésus, chaque mère de famille juive faisait elle-même son pain, et le faisait chaque jour. En guise de levain, elle se servait d'un peu de pâte qu'elle avait déjà laissée fermenter. Elle l'enfouissait dans la pâte fraîche, recouvrait le tout d'un linge et laissait le mélange reposer toute la nuit. Au matin, toute la pâte avait fermenté. Ceci dit, on se demande quel est exactement le centre d'intérêt de cette petite histoire. S'agit-il de l'influence transformante du levain? Ou de sa puissance irrésistible? Ou de son développement caché, se déroulant à l'intérieur? Ou du contraste entre le peu de levain et la quantité de pâte? Avant d'en décider, faisons les observations suivantes. 1. Introduit. Le verbe grec utilisé ici, en crypto, signifie littéralement caché dans, la top traduit enfoui. Pour certains, ce verbe attire l'attention sur le caractère secret de l'action du levain. Une femme a caché le levain dans la pâte, on ne le voit pas, mais il est là et il agit en dedans. Observons, par contre, que l'action du levain n'est pas un processus lent et imperceptible. Au début, il est vrai, le levain est caché et rien ne semble se passer, mais très vite toute la masse se met à gonfler et la fermentation progresse rapidement. 2. 3 mesures de farine. On ne connaît pas la valeur exacte des différentes unités de mesures israélites, mais le CA palestinien égale environ 12 ou 13 litres. 3 mesures, CA, représente donc une quantité énorme de farine, entre 36 et 40 litres. La bonne nouvelle traduit 25 kg. C'est beaucoup trop pour les besoins de la famille, même pendant plusieurs jours. Ce détail dépasse donc le cadre de la réalité quotidienne et semble important pour saisir la leçon de la parabole. 3. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. L'action du levain n'est pas considérée ici dans son processus, mais dans son résultat final, la fermentation de toute la pâte. L'occidental moderne regarde cette scène et voit un développement biologique, la multiplication des micro-organismes du levain. L'oriental, par contre, y voyait la succession, presque prodigieuse, de deux réalités différentes, ici le levain, là la pâte levée. En tout cas, l'intérêt n'est pas fixé sur le temps intermédiaire. Le trait essentiel de la parabole paraît être un contraste, la petite masse du levain ne l'empêche pas de faire lever toute la pâte. Il est vrai que Jésus ne mentionne pas explicitement la petitesse du levain, mais il l'implique en prenant une quantité énorme de farine, plus de 39 litres. Cette masse extraordinaire doit faire penser que le levain que la famille a caché allait s'y perdre, et pourtant. D'ailleurs, tout comme la petitesse du grain de moutarde était proverbiale, ainsi la puissance du levain, malgré sa petitesse par rapport à la quantité de pâte à lever, semble avoir été proverbiale. Pour montrer, par exemple, qu'un péché qui semble de peu de conséquences peut compromettre la vie de toute une assemblée, Paul dit, 1 Corinthiens 5, 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Là, Paul fait appel, non pas à une instruction antérieure, mais à un proverbe, qu'il cite aussi dans un autre contexte, Galates 5, 9, « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Jésus n'aurait donc pas eu besoin d'insister sur la petitesse de la masse de levain, car ses auditeurs auraient tous su comment on fabriquait le pain et auraient tout connu ce proverbe. Le contexte comme la parabole du grain de moutarde, celle du levain est placée, en Luc, à un autre moment du ministère de Jésus qu'en Matthieu. Toutes les deux se suivent, cependant, dans l'un et l'autre contexte, et elles ont toutes de la même structure. Les perspectives déjà établies pour la première devraient donc servir pour rechercher l'interprétation de la deuxième. L'application originelle en a donné à la parabole du levain une grande variété d'interprétations. On y a vu, la puissance de l'évangile pour transformer toutes les âmes qu'il réussit à atteindre, ou bien, la croissance certaine de l'Église depuis son petit commencement, ou bien, la puissance intérieure du royaume, qui agit non pas par la coercition extérieure, mais en dedans, ou encore, la lente mais régulière pénétration de la société humaine par l'influence du christianisme. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une parabole sœur de celle du grain de moutarde, et qu'elles entendent, sous deux images différentes, illustrer la même idée générale. 1. La comparaison principale. Ici de nouveau, le règne n'est pas comparé au levain, mais à ce qui arrive quand le levain est mis dans la farine. Finalement, le règne de Dieu est semblable à la pâte complètement levée. 2. La totalité de la pâte levée. Contrairement à l'image du grand arbre, voir les remarques au chemin V, celle d'une masse de pâte n'a pas, dans les prophètes, une signification symbolique ni une portée messianique. Mais dans la comparaison de Jésus, l'accent est mis non sur la pâte elle-même, mais sur l'idée de totalité. Le texte dit littéralement, jusqu'à ce que le tout soit levé. La masse extraordinaire de la pâte, presque 40 litres, entend signifier la pleine réalisation du règne messianique. Sans doute y a-t-il également ici l'annonce de l'universalité de ce règne. Ce même caractère est présenté en Daniel sous une autre image, celle d'une pierre qui devient une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2h31-35, 44, « Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes, de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Virgule dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. L'Église n'a jamais rempli toute la terre ni fait lever toute la patte de l'humanité. Au contraire, l'Évangile a toujours été rejeté par la grande majorité des hommes, l'Église a toujours été une petite lumière dans le monde. Et pourtant, une chose est certaine, la souveraineté, l'autorité royale, le règne du Messie est universel. Il s'étend sur toutes les nations, psaume 2, 6 à 12, et remplit toute la terre, Zacharie 9h10. Voilà ce que les prophètes avaient annoncé, et la fermentation complète de la pâte illustre le plein accomplissement de ces prophéties. Jésus recevrait, en effet, tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. 3. Le contraste. La leçon principale de la parabole tient dans le contraste entre les deux points extrêmes de la transformation de la pâte, au point de départ, une poignée de levain cachée dans une masse immense de pâte, au point d'arrivée, toute la pâte levée. Dans cette image, comme dans celle du grain de moutarde, il ne s'agit pas d'un processus de développement ou de croissance, il ne s'agit pas de la pénétration progressive du levain dans la pâte. Quand le règne viendrait, il ferait irruption d'une manière qu'aucune évolution n'aurait pu expliquer ni faire prévoir. Comme le grand arbre après le petit grain de moutarde, comme la masse levée en vertu de si peu de levain, le règne apparaîtrait plutôt comme un miracle. Il ne connaîtrait et n'aurait besoin de connaître ni accroissement, ni multiplication. Il serait universel dès son établissement. 4. La petitesse du levain. Comme la parabole du grain de moutarde, celle-ci répond aux préjugés des Juifs qui ne pouvaient pas croire que le règne messianique pourrait être instauré dans des circonstances aussi modestes et insignifiantes que celles du ministère de Jésus. À leurs yeux, cet humble charpentier galiléen sans richesse, sans armée, sans pouvoir politique, ne faisait pas un bien grand roi. Même ces miracles n'arrivaient pas à les convaincre qu'il était le Messie, ils demandaient des manifestations encore plus spectaculaires de sa puissance. Mais en dépit de l'apparence faible et insignifiante de la personne et de l'activité de Jésus, le résultat serait là, il serait visible lorsque le règne, alors caché, serait établi. Cette parabole a donc la même visée que celle de la précédente, de même que la petite masse du levain ne l'empêche pas de faire lever toute la pâte, de même l'apparence insignifiante du ministère de Jésus ne l'empêchera pas de réaliser pleinement le règne universel du Messie. En dépit de la faiblesse apparente de Jésus, la fin glorieuse, visée dès le début, s'accomplirait pleinement, l'arrivée du règne universel promis aux Juifs et fondé par le Christ. Leçon secondaire 1. La puissance de l'Église ne dépend pas du grand nombre de chrétiens dans le monde. Car tous les chrétiens participent au règne universel de leur roi. 2. La puissance de Dieu est irrésistible, bien que les moyens dont il se sert pour l'exercer semblent insuffisants aux yeux des hommes.